était presque parfait, une des plus célèbres utilisations dramatiques et noires du téléphone dans l'histoire du film policier. Jean-Yves Bochet, ce pauvre Grace Kelly qui tente, qui manque de mourir suite aux manipulations machiavéliques de son mari Rémy Land.
Oui, et puis avec la scène fameuse du téléphone où elle va tuer le personnage qui vient. Enfin, qui tente
là, c'est extraordinaire parce que le téléphone devient une arme par destination.
Voilà,
c'est-à-dire qu'on est confronté à deux téléphones. Il y a le téléphone avec lequel, je crois, c'est James Stewart, appelle son épouse pour l'attirer auprès du téléphone piège où elle sera normalement assassinée, mais ça ne sera pas le cas. Le téléphone, pourquoi? Eh bien, parce que je reçois Grégory Chatonsky. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous participez à l'animation donc nocturne de justement cette coulée verte devenue drôle d'endroit. Autour justement de la mise en scène dramaturgique de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique.
Oui, en fin de compte, moi, je pars souvent de phénomènes très très simples.
Oui.
Donc, je suis parti du phénomène simple. Quand vous promenez, parfois dans un espace urbain, il y a une cabine qui sonne et il y a personne.
Alors, vous avez investi là les différentes cabines téléphoniques qu'on peut trouver sur le chemin. Nous, on est au 129 bis à Médoménil, mais enfin, ça part de la place de la Bastille.
Ça se concentre à la Bastille.
Où sont vos cabines, là, pour les gens qui voudraient se ruer?
Ça se concentre à la Bastille, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes d'installation. Ça se concentre à la Bastille. Il y en a 3 ou 4 directement sur la coulée verte, et il y en a le long de l'avenue Doménil.
Voilà. Alors, justement, vous avez une vision tout à fait étonnante de la cabine téléphonique. Vous en faites un lieu politique. Et vous mettez en avant ce fait que c'est peut-être un des lieux les plus privés qui soit et en même temps parfaitement public, puisque c'est la parole qui peut être une parole extrêmement intime. Dans un endroit vitré, on est entre exhibition et confession, confidence, exposition.
Oui, il y a ce paradoxe-là. C'est-à-dire que c'est un espace effectivement urbain. C'est une mini-installation. Il y a de l'électricité, il y a du son. On y tient une conversation intime, qui ne regarde que nous-mêmes, avec un autre absent, un fantôme. Et les gens, les passants, vont avoir notre corps livré. Puisque dans tous les pays, finalement, les cabines sont transparentes, où il n'y a pas de surface, on peut pas vraiment se cacher dans une cabine. C'est une caractéristique un peu particulière. Et on retrouve ce phénomène aussi dans le téléphone portable. Je me suis beaucoup intéressé au téléphone portable et c'est un peu parallèle. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'interdictions de l'usage du téléphone portable dans l'espace public. Or, on a beaucoup de mal à comprendre finalement cette interdiction-là. Parce que tout simplement, quand il y a deux personnes qui discutent ensemble dans la rue, on va pas leur interdire de parler. Par contre, s'il y a une personne qui parle avec un téléphone portable, ça nous dérange énormément plus. Parce que finalement, le téléphone, c'est un peu un membre fantôme. C'est-à-dire qu'on parle avec un autre absent. Et ce membre fantôme, cette absence dans la communication, va faire que tout simplement, on va s'en sentir exclu et on ne va pas pouvoir oublier le dialogue. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui parle avec un téléphone portable, fort, c'est très énervant. Beaucoup plus qu'une discussion entre deux personnes. Donc c'est pas le niveau de la parole, c'est plutôt cette espèce de membre fantôme-là. Et la cabine téléphonique, à sa façon, joue ce membre fantôme-là de la communication.
Alors Grégory Chatonsky, donc décrivez-nous un petit peu la machine infernale que vous avez conçue pour piéger les promeneurs de cette nuit blanche 2005.
En fin de compte, c'est un projet qui remonte assez loin, puisque finalement on a commencé à les piéger à partir de juillet-août, en récupérant un certain nombre de messages et en infiltrant d'éléments de fiction la ville de Paris avec des panneaux de la ville de Paris, avec des stickers. Et en construisant des mini-fictions afin de récupérer des fragments de vie, finalement des fragments de singularité. Et il laissait donc sur un téléphone des messages. Ensuite, ces messages sont diffusés dans les cabines téléphoniques. Et les cabines téléphoniques, quand elles sonnent, s'éclairent, palpitent d'une lumière rouge au même rythme que la sonnerie. Donc les gens décrochent. Et là, ils entendent un fragment d'existence. Et ils peuvent à leur tour répondre. Donc il y a un double membre fantôme. Il y a un membre fantôme dans l'espace, la personne n'est pas là, mais aussi dans le temps, puisque la personne a déjà été enregistrée, donc encore différée. Et tout ça est manigancé finalement dans la mairie du 12e arrondissement, qui est un lieu politique officiel.
Tout près de l'endroit où nous sommes.
Tout à fait, qui est un lieu, donc on a vraiment choisi, c'est une, dans la salle des fêtes, c'est une salle très très kitsch avec des dorures. Parce que justement, on pourra en parler, il y a cette dimension-là de la salle de conférence, etc. Et donc tout ça est mélangé là, avec des fragments de films, et avec du son qui est mélangé en temps réel, parce que sans aucun doute, la cabine téléphonique est un lieu qui est surdéterminé par une codification cinématographique dont on ne peut pas se séparer, dont personne ne peut se séparer. Et moi, je m'intéresse souvent au cinéma, la façon dont il surdétermine notre appréhension et notre système perceptif.
Christine Gomariz. Oui, non, ce rapport cinématographique à la cabine téléphonique.
Bien sûr, non, mais qui n'a pas rêvé en plus d'être surpris par une cabine téléphonique? C'est-à-dire le fantasme de la cabine téléphonique qui sonne et on décroche. Et d'un seul coup, c'est tout un univers qui s'ouvre. Et donc là, vous jouez complètement là-dessus. Et en même temps, avec ce décalage temporel, puisque en face, l'interlocuteur n'est pas en temps réel.
Tout à fait. Il n'est pas là. Il est totalement absent. Et justement, je pense que cette surdétermination de la cabine, c'est vraiment le cinéma. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir, puisqu'on a, on a beaucoup travaillé sur des films, etc., c'est de voir qu'au cours du temps, quand il y a une cabine téléphonique dans un film, ça remplit un rôle extrêmement particulier. C'est toujours une séquence extrêmement problématique et qu'au cours des âges, finalement, le rapport à la cabine téléphonique change. Entre les films des années 70 avec Robert Redford, Dustin Hoffman, L'Homme Seul, où finalement on téléphone d'une cabine téléphonique pour rester anonyme, où on reçoit un coup de téléphone dans une cabine téléphonique pour que le pouvoir de conjuration reste anonyme. Donc toujours rester anonyme, toujours le singulier. Entre ça et l'usage contemporain dans Matrix, par exemple, de la cabine téléphonique, c'est radicalement différent. Et cette évolution-là, ce qui m'étonne énormément, c'est qu'elle surdétermine vraiment notre appareil perceptif. C'est-à-dire que finalement, on est tous déterminés par ça. Alors, j'ai pris comme focus la cabine téléphonique. Voilà, mais il y en a sûrement d'autres encore.
Alors justement, une expérience réussie avant d'entendre en duplex Céline Duchesnel justement évoquer eh bien ce qui se passe autour des cabines dont vous avez semé ce parcours latéral à la coulée verte. On va écouter deux messages et puis ensuite Céline Duchesnel.
Ma petite sœur avait voulu se raser comme mon père et elle était arrivée en plein milieu du repas en dégoulinant de sang et en disant « Papa, je suis arrivée à me raser comme toi ».
Je me rappelle, mes grands-mères étaient habillées en noir. Elles avaient des nattes sur la nuque et de la barbe qu'elles rasaient tous les matins.
Allô, Céline Duchesnel, vous êtes avec nous. Enfin, vous êtes proche de nous par le micro, mais...
Pas très loin, effectivement. Alors... Je suis en fait avenue Daumesnil et je peux vous assurer que pour le moment, il n'y a pas de scène de panique, pas de cris d'effroi ou de gens en transe. Le Parisien semble totalement s'adapter à cette nouvelle thématique de la nuit blanche. Et je peux vous dire pourtant que mon sang vif de reporter est prêt à démarrer au quart de tour à la moindre scène insolite. Alors il s'avère qu'au niveau de la scène insolite, je suis en fait devant une cabine téléphonique et vous aurez compris que là se trouve la clé de la chose bizarre de ce soir, et pas trop de passants autour de moi. Les trottoirs se sont plutôt vidés de leurs passants. Mais donc devant cette cabine téléphonique, je vois tout à coup que la lumière commence à s'allumer et devient toute rouge. Alors attendez que je regarde ce qui se passe. Une jeune femme rentre dans la cabine et elle choisit de répondre directement au téléphone. Donc c'est vrai qu'a priori, quand une cabine clignote, que se passe-t-il? Eh bien, il faut répondre au téléphone et je vais tout de suite demander à cette jeune femme ce qu'il vient de se passer et ce qu'elle vient d'entendre. Mademoiselle, vous voilà donc dans cette cabine, que se passe-t-il?
Alors j'ai décroché et une voix qui résonnait et qui fait un petit peu peur m'a demandé qui j'étais, donc j'ai répondu. Et après, elle m'a accusé de mentir. Et puis après, il y a des personnes qui m'ont raconté leurs problèmes, j'ai cru comprendre, parce que j'entendais pas très bien. Et après, la voix m'a redemandé qui j'étais, pourquoi je mentais, etc.
Alors, est-ce que vous avez eu peur? C'est là la question, peut-être.
Bah, c'est un petit peu intriguant, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'entend pas très bien. Et ouais, la voix, elle fait peur, ça résonne, c'est un peu effrayant.
Donc voilà, je vais laisser cette jeune femme répondre au prochain message. Et écoutez, voilà, pour le moment, les choses sont plutôt calmes. Je vous dis pas trop de monde, juste ces cabines mystérieuses qui, tour à tour, s'allument et deviennent toutes rouges dans la nuit. Voilà, François, les nouvelles de l'avenue Daumesnil au carrefour du boulevard Diderot.
Quand j'étais petit, que je rentrais de la classe de CP, et que pour rentrer chez moi, je fermais les yeux, j'écartais les bras, et je courais et sautais en rêvant que je m'envolais.
Allô, bonjour. Ben, je voudrais avoir une conversation avec une personne pour savoir exactement en quoi consiste, qui êtes-vous. Voilà, je m'appelle Ali Belkadi. Je suis âgé de 56 ans. Je ne sais plus ce que je suis, ni ce que j'aime. Je suis un peu perdu. Voilà, je ne sais pas trop ce que je dois dire. Voici mon numéro de téléphone, 06 61 49 59 05. Merci. Au revoir.
Jean-Yves Bochet, vous avez pu entendre la glane de Grégory Chatonsky avec ses cabines pièges. On a aussi bien des gens qui racontent un épisode un peu atroce mais assez cocasse de leur enfance. Certains disent des poèmes, d'autres racontent leur vie, puis d'autres poussent des cris de panique quasiment, comme celui qu'on vient d'entendre.
Alors ça me fait réfléchir un petit peu, ça me donne un peu de réflexion. D'abord, de dire à Grégory Chatonsky que le principe de son installation, pour que ça fonctionne, il faut que vraiment que les gens, quand ça sonne et quand il y a la lumière rouge, décrochent, ce qui n'est pas complètement évident, sauf si on ne les a pas prévenus quand même au départ. Mais attends, puis deuxième chose, j'entendais Céline Duchesnay qui disait « Pour l'instant, il n'y a pas de panique ou quoi. J'espère que vous n'espérez pas une panique telle qu'après la guerre des mondes d'Orson Welles quand même. »
Grégory Chatonsky.
C'est pas mon objectif. Le fait que les gens décrochent pas, à la limite, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que le dispositif, il est là. Et à partir de ce moment-là, si les gens décrochent pas, c'est le symptôme de quelque chose. S'ils décrochent aussi, on a prévu les différentes situations que personne ne décroche. Voilà. Donc c'est une proposition.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un parcours.
Moi, je fais pas des machines pavloviennes où les gens rentrent dans un système et ils sont dans une interactivité totalement pavlovienne où je les instrumentalise et je voudrais qu'ils répondent. S'ils répondent pas, ça ne me dérange pas. Le système tourne tout de même. De toute façon, le système, c'est pas seulement un système de diffusion sonore, c'est aussi simplement transformer les cabines téléphoniques en spots d'éclairage rouge. Le fait que dans la ville, il y ait des spots d'éclairage rouge, ça me convient aussi. Donc il y a différentes postures dans ce dispositif. Et voilà. Et moi, je n'anticipe pas l'usage qu'en font les gens. Bien évidemment, avec ce dispositif-là, il est hautement détournable, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas que j'attends ça avec une certaine impatience, mais le fait que je puisse être détourné de mon objectif premier, ça m'intéresse énormément. C'est plutôt une ouverture de possible.
Jean-Baptiste Torré.
Oui, non, mais vous disiez tout à l'heure la cabine téléphonique est surdéterminée par le cinéma. Évidemment, c'est que il y a quelque chose qui est important dans la cabine téléphonique, c'est que la sonnerie. Parce qu'il y a en fait il y a deux choses. Il y a d'un côté la connexion, hein, l'absence de communication ou de rapport, la connexion avec le membre fantôme. Généralement, c'est la mort d'ailleurs. Quand on pousserait en bout de course celui qui est au bout du fil, c'est toujours la mort. On vient de sortir il y a peu de temps La mort en ligne de Takashi Miike, qui est une espèce de version très littérale de ça. Mais alors, ce que vous dites sur les années 70, c'est qu'on pourrait, à mon avis, dire que il est rare qu'au cinéma, en tout cas, un coup de fil annonce une bonne nouvelle. En tout cas, d'un point de vue dramatique, hein, la plupart du temps, quand on reçoit un coup de fil, c'est toujours soit La Voix des Morts, et il y a eu notamment des Twilight Zone, une série qu'on aime bien ici, beaucoup d'épisodes jouant avec ça. Hein. On peut penser aussi à Lost Highway, par exemple, le fameux mystère sorti de cette émission de Bergman. Mais on voit qu'il y a d'un côté la question de la peur, parce que la sonnerie, c'est quand même l'intrusion d'un élément exogène d'un univers familier. Ça fait toujours très très peur, le téléphone qui sonne. Je pense à une séquence, par exemple, de Clout, de Pacula, ou au sketch Le Téléphone dans Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava, qui est probablement un film presque parangon de ça. Terreur sur la ligne de Fred Walton qui jouait, enfin il y a beaucoup de films qui ont joué de la sonnerie comme élément de peur. À mon avis, pour une raison toute bête, et je pense que c'est ce qui marche assez bien avec les cabines, c'est l'idée qu'il y a toujours une espèce de puissance phénoménale du son, évidemment, sur l'image. L'image, elle est assignable, elle est projetée sur un écran, donc on lui donne une origine physique et géographique. Le son, c'est évidemment, c'est le hors-champ en permanence. Et il y a cette volonté de tout raccorder, à un moment donné, une voix, ce qu'on a entendu, hein, avec un corps qui ne vient jamais. Enfin, le magicien d'Oz et m'abuse, encore une fois, ce n'est jamais qu'une déclinaison de la peur liée à la cabine.
Mais je ne suis pas sûr que dans notre imaginaire, le plan téléphonique et le plan cabine téléphonique se superposent parfaitement.
Non, pas du tout.
Le plan cabine téléphonique, c'est vraiment la question, me semble-t-il, de l'anonyme. Qu'est-ce que c'est que l'anonyme et la singularité? C'est-à-dire comment avoir dans un espace public une discussion privée et si possible anonyme. Ce qui est un peu le même problème que dans un espace de monstration artistique, que ce soit une exposition. Comment dans un espace où mon corps... Vous savez, quand vous vous promenez au Louvre, vous regardez tout aussi bien les œuvres que les corps livrés, les corps des gens qui regardent. Il y a aussi une jouissance à voir les gens qui regardent les œuvres. Il y a cette fameuse scène dans Vertigo où ils regardent le tableau, etc. avec Kim Novak. Donc il y a ça. Et c'est vrai que ce phénomène-là me semble profondément proche de ce qui se passe pendant la nuit blanche, d'une part. D'autre part, cette puissance du son, c'est vrai que dans beaucoup de créations contemporaines, on retrouve une très forte importance donnée au son. Peut-être que l'une des raisons de cela, c'est que ça rentre à contrario, entre autres, du cinéma qui est un art principalement temporel et qui a de plus en plus d'œuvres qui questionnent vraiment l'espace dans sa singularité, ce que d'une certaine manière le cinéma ne peut pas faire. Donc moi, il faut bien comprendre que mon rapport au cinéma n'est absolument pas un rapport de fascination,
de fétichisme,
qui les cinéphiles en général m'ennuient parce que c'est une forme de religion, c'est une religion au XXe siècle, mais c'est vraiment travailler contre le cinéma, c'est-à-dire que c'est une machine idéologique qui nous surdétermine et c'est que afin que les gens puissent faire retour dessus d'une façon critique.
Alors ce que vous essayez de faire d'ailleurs à la mairie du 12e, hein, vous avez justement vous montrez une espèce de, d'extraordinaire collection de coups de fil donnés ou reçus.
On rend apparent le dispositif, c'est-à-dire que c'est le standard téléphonique à proprement parler, donc on appelle de cet endroit-là, on diffuse les messages, on les reçoit, et on mélange tout ça avec environ 800 fragments de films qu'on a trouvés un peu partout, qui portent principalement sur les cabines téléphoniques, mais aussi sur les téléphones, et finalement ça crée une drôle de conversation entre les gens dans les cabines là, in vivo, et puis les gens dans les films. Donc ça crée cette discussion un peu entre des vivants et des morts. Et ce qui, tout de même, c'est très étonnant le téléphone, quoi. Moi, c'est un objet qui m'étonne énormément et sur lequel il y a assez peu de réflexion. C'est-à-dire que le fait de parler avec un corps absent. Et c'est une situation radicalement nouvelle qu'on a tous intégrée comme si de rien n'était. Parler avec un corps absent, auparavant, il y a quelques siècles, ça avait une autre destination et un autre sens. Et ne pas penser que quand on passe un coup de téléphone, c'est lié à ce sens-là, ce serait étrange.
Eh bien, je m'adresse à tout le public qui est là ce soir, au 129 bis, la vue de Ménil, pour écouter Mauvais Genre. Ruez-vous dans les cabines de Grégory Chatonsky, déposez-y des messages, et puis après, allez voir également la suite de ce qu'il propose à la mairie du 12e arrondissement.